Chapitre 13. Le traité, suite et fin, le pacte de garantie. Il faut pourtant le reconnaître, si l'occupation de la Rhénanie, recommandée par le maréchal Foch et d'abord adoptée par le gouvernement français, nous apportait un surplus de sécurité qui n'était pas négligeable, le principe en demeurait critiquable à des adversaires qui n'ont pas manqué d'arguments. La première question, et non la moins importante, était de savoir ce que nous ferions des habitants de la Rhénanie. Ils ne manqueraient pas d'alléguer qu'ils étaient chez eux, ce qui, dans les temps modernes quelquefois, n'est pas une mauvaise raison. Jadis, on violait ouvertement des territoires pacifiques, on massacrait, on déportait tout ce qui faisait résistance, on asservissait le reste, et nul ne trouvait le moyen de se plaindre, comme nous avons vu en Belgique sous l'occupation allemande. Désormais, il faut y mettre plus de façon. Tout absorbé par ses occupations militaires, le maréchal Foch ne se cassait pas la tête pour savoir ce que deviendraient 5,5 millions d'habitants qui, par l'effet des principes de la Révolution française, ne trouveraient peut-être pas bon qu'on disposât d'eux sans une consultation générale dont le résultat n'était pas douteux. Ce fut donc en toute sincérité que nous en vîmes à répudier l'annexion qui n'était après tout qu'une organisation de violence. Est-il recommandable de dire aux gens « Arrangez-vous à votre guise, mais il faut que je sois maître de placer chez vous des forteresses et des canons partout où il pourra me convenir ». Dans sa logique, Foch a conclu qu'il ne saurait permettre aux Rhénans d'une Rhénanie occupée par la France d'être soldats de l'Allemagne. Volontiers, je les aurais vus français, mais je n'étais pas sûr de leur assentiment. Les hommes de la Rhénanie ne veulent pas être prussiens, malgré eux, Mousse-Preußen, mais ils n'avaient pas dit encore qu'ils souhaitaient être français. On sait comment M. Poincaré lui-même s'y laisse apprendre jusqu'à annoncer, la veille de l'affreux massacre de Pirmasens, le succès prochain du mouvement d'indépendance rhénane. J'ai combattu jusqu'au bout pour la frontière stratégique que le maréchal Foch jugeait la meilleure, illusion sur les difficultés du dedans et du dehors. Comment se fait-il qu'on me demande pourquoi je n'ai pas fait ce que j'ai fait? Pourrait-on soutenir que je me suis complaisamment offert à la déroute lorsque, le jour même où j'allais déposer le traité sur le bureau de la Chambre, M. Lord George fondait sur moi pour m'annoncer qu'il se retirerait si je n'acceptais pas l'occupation rhénane pour 2 ans au lieu de 15. Je répondis que s'il maintenait sa menace, j'allais remettre ma démission au Parlement, après explication. Sans le vigoureux appui de M. Wilson, le traité ce jour-là était par terre, et personne ne veut croire que le maréchal Foch et M. Poincaré eussent à ce compte obtenu satisfaction. On voit que j'étais allé jusqu'à l'extrémité de mon effort, puisqu'il n'y avait plus que la rupture des alliances en perspective, c'est-à-dire la faillite de la victoire. Un beau thème sur quoi philosopher. Saisi de la question rhénane, M. Wilson hochait la tête vilainement et M. Lord George faisait figure résolue d'adversaire en plein accord avec M. Balfour qui, dès 1917, s'était prononcé à 2 reprises différentes contre la création d'un État autonome du Rhin. « Il ne faut pas créer pour l'Allemagne une seconde Alsace-Lorraine », ajoutait M. Lord George. « Nous sommes d'accord avec la France sur le but à atteindre, nous ne sommes pas d'accord sur le moyen ». Brusquement, dans une conversation du 14 mars 1919, M. Lord George me déclare qu'il offre la garantie militaire de la Grande-Bretagne contre une agression allemande non provoquée en échange de l'occupation et de l'indépendance de la rive gauche du Rhin. Il ajoute même qu'il usera de toute son influence auprès de M. Wilson pour obtenir du gouvernement américain le même engagement. Quand je rendis compte de cet événement à M. Poincaré, il parut peu touché de la proposition britannique à laquelle M. Wilson avait déjà apporté son concours. Il demeura muet, ce qui était parfois sa manière de manifester des objections. « Je ne vois pas très bien, fis-je observer, comment je proposerais au peuple français, alors qu'il a vaincu l'Allemagne avec les Anglais et les Américains, de refuser la garantie militaire de ces 2 peuples pour assurer la paix. » Pas un mot, nous nous séparâmes sur cette forme d'un échange de pensées. 3 jours après, je soumettais aux parties contractantes une note par laquelle s'ouvrait le débat pour préciser les conditions qui permettraient la mise en œuvre de l'action militaire. Aucun jour n'a passé sans que la discussion fût reprise et le projet anglo-américain scruté, discuté dans ses ultimes conséquences. Le commandant en chef, avec les généraux alliés, sont appelés devant les 4, et le maréchal Foch, une fois de plus, répète ce qu'il a dit. Comment le mémorial peut-il alléguer que le maréchal eut grand-peine à être entendu? Il fut convoqué par le gouvernement devant toutes les juridictions où il put dire tout ce qui lui plut. Il n'a pas rédigé le traité à sa guise, voilà son grand sujet de plainte. Napoléon faisait lui-même ses guerres et ses traités, mais ces traités qui devaient assurer la paix n'ont réussi qu'à déchaîner des successions de guerres, et c'est précisément ce qu'il s'agissait d'éviter. Croyez-vous qu'à aucun moment de ses discours, le maréchal ait abordé la question véritable, à savoir la rupture des alliances, si son plan était adopté? Pas un moment. Il ne lui était pas difficile d'être loquace là où M. Poincaré, éminent parleur, était demeuré muet. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvait aborder la question préalable de la rupture des alliances, parce qu'au premier mot, il se serait effondré. Ce fut alors que la discussion s'engagea sur l'occupation provisoire de la rive gauche du Rhin, à laquelle M. Lord George proposait de nous faire renoncer en retour de la promesse d'une alliance militaire. L'Angleterre, alléguait-il, n'avait point d'armée permanente. En revanche, elle possédait une armée navale en permanence sur la mer, et, gardienne de la flotte allemande, elle l'avait laissée se mettre elle-même hors de service à Scapa Flow. Après un débat qui ne dura pas moins d'une semaine, les alliés aboutirent à la rédaction suivante, qui devint le paragraphe final de l'article 429. Si, à l'expiration de 15 années, les garanties contre une agression non provoquée de l'Allemagne n'étaient pas considérées comme suffisantes par les gouvernements alliés et associés, l'évacuation des troupes d'occupation pourrait être retardée dans la mesure jugée nécessaire à l'obtention des dites garanties. De quelles garanties s'agissait-il? Dit M. Tardieu. De celles qu'ont prévues à Versailles le 28 juin 1919, le traité avec l'Allemagne et les deux traités anglais et américains, c'est-à-dire, à savoir, pour un avenir lointain et non défini, la Société des Nations, pour un avenir plus proche, l'occupation complétée par les deux traités. Dans quel cas ces garanties pourraient-elles être jugées insuffisantes en 1935? Dans le cas où les deux traités viendraient à manquer, donc précisément dans le cas réalisé par le vote négatif du Sénat américain. Quelle garantie supplémentaire de sécurité nous eût apporté la constitution d'une Rhénanie indépendante? Pour une réponse pertinente, encore fallait-il savoir exactement quel résultat nous nous proposions d'obtenir. Notre unique dessein était de nous mettre en état de faire face aussi rapidement et aussi puissamment que possible à toute nouvelle agression. Or, nous tenions, en vertu de l'article 428 du traité, les têtes de pont. Nous tenons ces têtes de pont pour 5, 10, 15 ans. En vertu de l'article 429, nous pouvons retarder l'évacuation des troupes dans la mesure jugée nécessaire à l'obtention des garanties contre une agression non provoquée de l'Allemagne. Jusqu'à la dernière heure, le maréchal fut entendu. Le 25 avril, à la séance finale du Conseil des ministres, le 6 mai, à la séance plénière de la conférence qui précéda de 24 heures la remise du traité aux Allemands, le maréchal eut la parole jusqu'au bout. Il trouva sans difficulté que l'occupation provisoire n'était pas d'un effet aussi sûr que l'occupation permanente, mais ne dit rien de l'alliance militaire qui compensait ce manquement, bien au-delà de ce qui pouvait être espéré. Il feignit d'ignorer le fait assez notable de l'alliance franco-anglo-américaine sur le Rhin. Parlant du retour des Allemands dans les territoires occupés, il se plaignait sérieusement d'une absence de garantie militaire. C'était peut-être un peu sommaire quand il s'agissait des forces de terre et de mer que la Grande-Bretagne et l'Amérique nous proposaient de mettre en ligne. Pour moi, que puis-je dire de plus? On me blâme amèrement de n'avoir pas voulu donner une frontière stratégique à mon pays. Comment prendre au sérieux les hauts et les bas personnages qui me font ce reproche, puisqu'ils savent que je ne pouvais, la question de droit des peuples écartée, prendre la Rhénanie sans rompre l'alliance, ce que personne n'a osé me proposer? Comment pouvaient-ils être de bonne foi ceux qui évitaient avec tant de soin de poser la question dans ces termes véritables, en me demandant pourquoi je n'ai pas fait ce qu'ils n'auraient pas fait plus que moi, parce que la France ne l'aurait pas permis? La seule question qui s'est posée à propos de la frontière du Rhin a été la rupture de l'Alliance, et je proclame bien haut que cela je ne l'ai pas voulu. Je vous le demande à vous, monsieur Raymond Poincaré, me reprochez-vous de n'avoir pas amené monsieur Wilson et monsieur Lord George à quitter la partie pour nous laisser en tête-à-tête avec la République rhénane du brave docteur Dorton, dont on n'a plus entendu parler depuis Pirmasens? Eh bien non, je n'ai pas rompu avec les alliés, pas plus que vous n'auriez pu rompre vous-même, car vous eussiez été aussitôt balayé pour l'honneur du nom français. Et ce sont vos amis même, non les miens, qui le proclament. Écoutez, monsieur Bartou, le gouvernement français, à la place duquel il est peu probable qu'un autre eût agi différemment, a apporté à la France des garanties solides. Peut-on nier la force imposante qu'elle représente? Elles se complètent les unes par les autres. Qu'arriva-t-il cependant? C'est qu'à Westminster, le pacte de garantie fut unanimement accepté, tandis qu'à Washington, on ne lui fit pas même les honneurs d'en exposer. Le 22 juillet 1919, à l'occasion de la seconde lecture du projet de loi relatif au pacte de garantie, Lord Curzon prononçait les paroles suivantes. L'épreuve réelle d'un projet de cette nature réside dans le fait de savoir si cette garantie que nous donnerons, et que, je l'espère, les États-Unis donneront de même, sera suffisante pour amener la paix du continent américain et du monde. Je ne crois pas que quiconque hésiterait à répondre affirmativement à cette question. J'ai été non seulement satisfait, mais presque surpris de l'unanimité avec laquelle l'entreprise de cet engagement pris par nous, entreprise qui n'était pas médiocre, a été acceptée par l'opinion publique de ce pays. La Chambre des communes, qui jamais n'avait engagé d'avance son action militaire envers aucun peuple, avait compris sans effort qu'une situation nouvelle commandait des résolutions d'un caractère nouveau. Le traité de garantie fut donc voté par elle à l'unanimité, sans débat. La France ne l'oubliera pas. En revanche, à 6 voix de majorité, le Sénat américain refusait à M. Wilson, atteint pendant de longues mois d'une cruelle maladie, le consentement qu'il avait demandé. L'article 2, qui prévoyait l'entrée en vigueur simultanément des deux traités, n'a donc pu jouer. Avec leur parlement fragile, les démocraties courent de ces dangers. Pour la France, qui aida si puissamment la grande œuvre de l'indépendance américaine, il y a une belle leçon d'histoire à méditer. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait plus de Français que d'Américains dans la petite armée qui fit capituler Lord Cornwallis à Yorktown. C'était le beau temps de la libération américaine. De New York à San Francisco, qui y pense aujourd'hui? L'événement n'a donc pas suivi son cours. On sait que Washington, en 1796, a recommandé à ses compatriotes de ne pas entrer dans les liens des alliances européennes. Il y avait alors beaucoup de raisons pour cela. Est-ce donc à dire que les circonstances ne puissent pas changer? Est-il un homme sur la terre qui soit en état de formuler une recommandation de politique étrangère pour l'éternité? Qui donc a fait la proposition d'un pacte de garantie? Sinon, après M. Lloyd George, le porte-parole officiel du peuple américain, qui a jugé que la menace allemande fût aussi bien dirigée contre les États-Unis que contre la France et l'Angleterre? Qui nous a proposé une association de guerre? Tout est là. Quand M. Poincaré, que l'alliance militaire avec l'Angleterre et les États-Unis n'avait point désarmé de son rhénanisme, me reproche dans ses conversations de n'avoir pas fait voter le traité par l'Amérique avant la France, il construit, après coup, un raisonnement des pas perdus, en cherchant à introduire entre le gouvernement américain et nous des machinations de plaideurs à bout de souffle, d'où j'eusse été bien vite délogé par les deux gouvernements. M. Woodrow Wilson et le Sénat américain ne sont pas gens qu'on puisse manier avec cette désinvolture. Je les avais pratiqués. Leur sentiment d'indépendance farouche m'était connu. À la première apparence d'une pression déplaisante, ils se seraient mis en bataille et je me serais trouvé, avec mon vilain piège détraqué, tout piteux, dans une position humiliante. Il n'y avait que 2 hommes avec qui la question put être utilement traitée et de quel ménagement encore fallait-il l'entourer. Le président Wilson et le colonel House, son autre lui-même, étaient des gens de fierté. À mes questions sur les résultats qu'ils pouvaient escompter, le président Wilson me répondait toujours avec une confiance imperturbable qu'il se tenait pour certain d'un résultat heureux. Le colonel House n'était pas sans faire des réserves, mais il avait foi dans son président. Je n'eus garde de leur parler, ni à l'un ni à l'autre, de la procédure poincaresque, au péril de les retourner contre moi. N'oubliez pas que c'est M. Lord George qui avait fait la proposition primitive en offrant ses bons offices pour y amener le président américain. M. Wilson n'arrivait qu'en seconde ligne, défenseur d'intérêts moins immédiats à notre égard. Croit-on sérieusement que je pouvais engager cette partie sans que président et sénat américains en vinssent promptement à découvrir mon jeu et à me reprocher de les bafouer à l'heure même où ils nous offraient de nous aider? quel risque je courais de compromettre irrémédiablement M. Wilson, notre ami, auprès de l'Assemblée qui exerçait sur lui un juste pouvoir de contrôle. En vérité, comment que j'envisage l'affaire, je n'y vois qu'une aggravation de danger, un jeu de greffier de juge de paix. Du reste, M. Poincaré ne m'en a jamais parlé. C'est une idée en retard. J'ai l'habitude d'accepter mes responsabilités. Quand on porte le fait d'une responsabilité de la France, on a vraiment autre chose en tête que des ressources d'escamoteurs. Je vois passer dans l'air des signes précurseurs d'une confusion telle que tout est à prévoir, hormis le redressement du traité de Versailles, dont le mérite était au moins de fonder la paix. La paix séparée de l'Amérique, qui pouvait arbitrer la paix européenne, a rejeté l'ancien continent à des querelles historiques par un déploiement d'avidité financière sur laquelle l'avenir prononcera. Il me semble vraiment que ce vote purement négatif, à 6 voix de majorité, ne pouvait être le dernier mot de la grande République américaine si le gouvernement français, comme c'était son droit, lui avait demandé de prononcer sur elle-même et sur nous par une formule d'équité. Quand on a donné si bravement son sang pour une si belle cause, on a mauvaise grâce à vouloir subitement achever, par un simple refus de concours, la ruine des camarades de guerre qui ont survécu. Bien conduite, avec le concours de l'Angleterre, qui ne nous aurait certainement pas été refusée, cette négociation supplémentaire aurait dû conduire à un accord qui eût sauvé l'honneur de l'Amérique et rétabli les compensations de force auxquelles nous avions droit. Le pacte de garantie ne nous apportait rien de moins que la sanction suprême du traité de paix. Au prix des plus grands efforts, nous avions tenté d'établir d'équitables groupements de puissances nationales, nés d'un compromis des affinités ethniques et des violences de l'histoire, auxquelles l'accoutumance semblait avoir donné valeur de fait acquis. Frédéric II, Catherine, Marie-Thérèse ont laissé des souvenirs de brigandage qui ne paraissent pas en voie de s'éteindre. Il ne faut qu'un temps pour la rapine. Les siècles ne suffisent pas toujours à la réparation. Si la France avait été animée d'intentions conquérantes, comme le lui ont reproché quelques Américains, elle se fût sans doute cantonnée dans des revendications de territoire auxquelles des souvenirs historiques demeuraient attachés, malgré le péril de fonder la paix de l'Europe nouvelle sur une question d'Alsace-Lorraine à rebours. Loin de là, les négociateurs estimèrent que les Alliés, qui venaient de concourir si brillamment à la victoire, ne pouvaient pas se voir repoussés quand ils proposaient de continuer dans la paix la politique qui les avait amenés sur le champ de bataille. La proposition Lord George Wilson venant à disparaître, on ne découvrait d'autre recours contre la guerre qu'en idéologie de la Ligue des Nations, beaucoup plus propre aux combinaisons parlementaires comme aux élans d'éloquence que la silencieuse mais efficace tension des gouvernements alliés pour la continuité de la paix. Le pacte de garantie suffisait à exclure la guerre, comme l'a reconnu Lord Curzon. Mais si l'Amérique, toute à sa prospérité particulière, se désintéressait de l'un et l'autre arrangement, il ne nous restait que l'incertitude. La République américaine l'a trop vite oublié après nous avoir dit que la frontière de la liberté était en France. En laissant non seulement la France, mais toute l'Europe de droit aux chances d'une nouvelle prise d'armes, l'histoire prononcera que l'Amérique a tourné le dos trop vite aux appels de sa destinée. Elle a perdu 50 000 hommes et nous 1,5 million, avec plus de 700 000 mutilés. Elle s'est enrichie à miracle et nous allons lui compter, dollar par dollar, les marques qui nous sont dues par l'Allemagne au titre des réparations. A-t-elle donc si vite oublié que cette guerre fut pour nous d'extrême sauvegarde, non d'entreprise conquérante? Toute l'Europe était menacée. Nous avons sauvé les Alliés comme ils nous ont sauvés, du même coup. Anglais et Américains entrèrent dans la bataille comme nous-mêmes, pour leur propre salut. On comprend que le Sénat américain ait fait des objections à la nouveauté d'une Ligue des Nations qui pouvait entraîner le pays au-delà de ses prévisions. Le rejet du pacte, sans débat, s'explique moins aisément de l'Amérique puisqu'il ne s'agissait pour elle que de s'unir à l'Angleterre afin d'empêcher un renouveau des agressions allemandes contre la France, laquelle représentait le point de crise du droit européen. Le pacte de garantie s'installait ainsi en clé de voûte de la paix européenne au-dessus des théories. Son rejet, par là même, avait la valeur d'une invitation oblique aux revanches de l'agression manquée. Que la France et l'Europe soient demeurées sous le coup des préventions causées par la désinvolture avec laquelle les pouvoirs publics des États-Unis ont refusé de discuter un état de solidarité qui eût arrêté l'Allemagne dans la course aux armements, Nous avons le droit de le regretter pour l'Amérique autant que pour nous-mêmes. Il lui était possible de porter un coup d'arrêt au prolongement de cette affreuse tragédie. Non seulement elle n'a pas même été tentée de suivre l'exemple unanime de nos alliés britanniques, mais encore, sans débat, elle a dédaigneusement écarté la question. La pente n'était que trop glissante. On le vit bien lorsqu'à cette malheureuse défaillance succéda l'entreprise de nous faire payer le complément de dommages à nous causé par le retard de ses préparations. Il nous sera permis d'en exprimer notre cruelle surprise, surtout quand on s'obstine, dans des vues inquiétantes, à nous faire prendre pour plus de 60 ans des engagements financiers auxquels chacun sait que nous ne pourrons pas faire droit. Et cela ne suffit même pas à calmer les appétits américains. On ne nous permet d'établir aucun lien entre les paiements à venir de l'Allemagne et les prétendues créances du gouvernement américain qui ne se contente pas d'être payé par nous dans la mesure des sommes à recevoir de l'Allemagne au titre des réparations. Que les rétributions allemandes prennent fin, pour quelque raison que ce soit, l'Amérique veut que son compte de profit s'ajoute, comme pour nous achever, au compte des dommages causés par l'ennemi. Ne sera-t-il donc pas permis de demander à quel désastre total accepte de nous précipiter une avidité sans autre issue que l'anéantissement de la France? Plus de 60 années! Songez ce que ce temps peut produire de développement, de prospérité pour d'autres pays, en même temps que de catastrophes suprêmes pour la nôtre, coupable d'avoir pris les armes contre l'envahisseur. À quelle comparaison veut-on donc nous conduire entre l'agression allemande et l'amitié du secours américain? Il y a sans doute la France endormie qui se réveillera quelques jours. Mais comme je ne sais pas l'heure de ce miracle et que je suis pressé par les ans, je me contenterai d'un homme de bon sens qui aurait le courage, quand il pense non, de dire non. C'est peut-être chez nous et ailleurs le plus difficile à obtenir. J'ai confiance, malgré de mauvais signes. J'ai confiance parce qu'il nous reste nous et que, venu leur favorable, ce pourrait être assez. Il n'y a pas de peuple sans voisins, et nous voudrions que nos voisins nous fussent amis, car c'est là que se trouve la sécurité supérieure. Mais l'amitié ne se gagne pas par la violence, sous quelque forme que ce soit. La sécurité internationale, garantie par nos alliés, nous fut offerte et nous l'avons acceptée. Elle n'a pu se réaliser par l'incompréhension de quelques intelligences défaillantes. La France n'en demeure pas moins noblement dans son rôle historique. Elle peut prendre à son compte le mot du grand potier général Palissy lorsque son roi lui conseillait de se convertir pour éviter le supplice « Sire, je sais mourir ». Mais la France ne mourra pas parce que l'humanité a besoin d'elle pour des accomplissements de grandeur, pour des actes désintéressés.